Et vraisemblablement, ils lui ont laissé de quoi écrire, parce qu'il a conçu sa machine en camp de concentration. Et puis à la fin, comme il n'était pas content de l'Allemagne, il est allé au Liechtenstein, où il fabriquait sa machine, et où il a vendu des milliers, des milliers, peut-être des millions d'exemplaires.
Ouais. Ouais. S'il y a un curte temps, tu vois, si c'est lui-même qui avait.
Écoutez, je suis pas sûr.
Un avion qui a été très utilisé par.
Écoutez, je suis pas sûr de ce que je dis là, mais je ne parle pas de la Curta.
Était une amélioration notable du Foucault.
Curta, parce que Curta, c'est son nom, hein, c'est Kurt Tank ou Kurt, alors
ah
c'est
non,
peut-être
ça
pas tant.
Avec un.
Oui, mais Kurt s'écrit avec un. Oui, bah, parce qu'ils l'ont écrit, c'était bon, ouais. Oui, absolument, oui. Ben les gens, c'était très populaire pour les. Oui, c'était très cher, oui. Oui, je connais des gens qui en ont une vingtaine ou une trentaine, oui. Donc ça doit. Vous les trouvez sur Internet, mais à 1 000 à 1 500 euros, oui.
Mais à l'époque, ça coûtait cher.
Ah ben à l'époque, ça coûtait cher, oui. Quoi qu'il en soit, bon, voilà. Donc le système d'indice est petit partout. L'idée, c'est d'avoir. Disons, on a empilé. Une roue à 9 dents, et une roue à 8 dents, une roue, etc. Et en fonction d'un baladeur, on choisit laquelle on veut. Et pour que ce baladeur puisse se balader sans rencontrer d'obstacles, eh bien tout ça est parfaitement aligné, parfaitement lissé, qui fait que du moment qu'on a rencontré une roue, on peut se balader un petit peu partout. Alors ça existe un petit peu partout. Ah oui, mais ça a été fait comme ça, oui. Ça, c'était pièces qui sont en acier. Je ne sais pas si elles étaient taillées. Et celle-ci, c'est une pièce qui est en bronze. Je ne sais pas si elle est tâtée ou moulée, mais c'est dans la machine à manne, etc. Voilà. Donc, quand le cylindre ici d'entrée fait un tour complet, eh bien, la baladeur fait autant de dixièmes de tour que ce qui a été affiché. Voilà. Alors, la Monroe que vous avez utilisée utilise des cylindres de Leibniz. Le problème du cylindre de Leibniz, c'est son volume. Il est formé d'un empilement d'engrenages, comme je vous le disais. Chacun de ces engrenages doit avoir une épaisseur minimum due à la précision à laquelle on met le baladeur. Donc, il faut, etc. Donc, tout ça est très grand. Donc, tout le monde a essayé d'améliorer ce truc-là. Donc, en particulier Monroe. Alors, lui, ce qu'il a dit, ce cylindre de Leibniz, je vais le couper en deux. Une partie qui aura 5 dents, qui fera 5 dents ou 0, et une partie qui aura 0, 1, 2, 3 ou 4 dents. Et ça va être la somme des deux que l'on va faire. Et donc ces deux parties-là peuvent coulisser sur un axe, peuvent coulisser, mais elles sont solidaires de l'axe en temps qu'elles tournent avec l'axe. Et puis je vous ai fait un petit dessin disant 0, il n'y a aucune dent, 1, il n'y a que celle-là, 2, il y a ces deux premières, 3, etc., 4, 5, on met ces 5-là, 6, etc. Alors vous me dites comment on fait le codage? C'est assez simple, c'est des cams qui sont commandés par les touches. Donc si les touches sont supérieures ou égales à 5, on ajoute ça, et quand on a 0, enfin, dans le système hétéropo, c'est ça. Donc entre ces deux pièces-là, il y a un ressort qui écarte ces deux pièces jusqu'à débuter. Et puis, chaque touche commande un objet qui va pousser ici, à droite ou à gauche. Pardon ? Oui, c'est un poussoir. Alors ce poussoir, en fait, puisque les touches sont longues, il doit être très, très rigide dans le sens longitudinal. En fait, donc, c'est une pièce qui pivote sur deux axes à son extrémité, et elle est rigide mécaniquement, puisqu'elle doit avoir une certaine longueur. Donc ça, c'est étudié.
Donc le total se fait par le nombre de rotations.
Le nombre de dents que l'on met en face, ça c'est la roue du compteur que j'ai représentée comme ceci, et ça c'est le nombre de dents variables.
Oui, alors c'est la rotation du petit.
C'est ça. Donc cet axe-là, elles sont toutes sur le même axe. Quand cet axe-là fait un tour, celle-ci fera 0 dixième de tour, celle-ci fera 1 dixième de tour, celle-ci fera 2 dixièmes de tour, etc., en admettant que le rapport soit de 1, ce qui est le cas d'ailleurs, parce que ça fait des dixièmes de tour. Alors ce truc-là, sans rien dévoiler, a quand même un inconvénient qu'ont toutes ces machines de Leibniz, toutes, c'est démarrage et arrêt. Hein, on veut tourner d'un dixième de tour. Eh bien, on tourne brutalement d'un dixième de tour, et puis pendant les 9 dixièmes du temps qui reste, on ne fait rien. 2 dixièmes de tour, temps 1 on tourne, temps 2 on tourne, et puis les 8 dixièmes on ne fait rien, etc. Donc accélération brutale et décélération brutale. D'où bruit et usure des pièces. Ah, ça, c'est tout à fait autre chose. Ça, c'est uniquement comment on transforme un clavier en mouvement et comment on peut relire plusieurs fois. Si le moteur ici fait plusieurs tours, eh bien, on va additionner autant de fois que de tour 0, autant de fois que de tour 1, autant de fois que de tour 2, etc. Je les ai placés comme ça pour montrer quels sont les différents codages. Ça, c'est... Ce mécanisme est bien expliqué dans Couffignal, et il est bien expliqué dans René Tatton, et je soupçonne que René Tatton a crassusé Couffignal, parce que, bon... Ça, parce que les dessins ont tendance à se ressembler beaucoup. Je ne sais pas bien qui connaît les deux. De toute façon, ces idées étaient dans le public. Je veux dire, le seul truc dont ils étaient responsables, c'est la mise en forme. Donc Couffignal a pris un dessin qui est américain, donc vraisemblablement de Monroe. Oui, ben moi aussi, hein, tous ces dessins sont généralement copiés. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que ça permet de mettre tous les roues de Hodner sur le même axe, alors que ici, c'est l'arithmomètre de Thomas de Colmar, qui était déjà une amélioration par rapport à la machine de Leibniz, qui prenait nettement moins de place. Mais on voit que ces cylindres qui sont mis ici côte à côte sont quand même assez, assez gros. Et donc, comme ils sont gros, on ne peut pas les aligner sur le même axe. Donc, on a des renvois d'angle qui sont ici, donc vous voyez des pignons coniques, là, etc. Donc ça compliquait un petit peu les choses. Puis ici, je vous donne la table de transcription entre la position... Alors ces tables de transcription sont faites avec de la tôle pliée tordue, la tôle est pliée en forme comme ça, et quand on enfonce une touche, elle a une espèce de fourche en bas qui va avancer ce truc-là, ou etc. Et donc c'est la forme de la fourche qui détermine la valeur du chiffre. Donc en fait, on a mis les 1 en bas et puis les 9 en haut, on pourrait les mettre dans n'importe quel ordre. Vous pouvez la démonter et le mettre dans un ordre différent, ça remarchera, puisque c'est la forme de la fourche qui...
Vous
pouvez
la lever avant de la déplacer, hein.
Non, je dis, vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez.
D'accord, mais la touche, finalement,
oui,
va déplacer ce système,
oui,
pour positionner les...
C'est ça. Non, mais la touche est fixe. La touche est fixe. Je dis la touche est fixe, donc le 0 est placé ici, le 1 est placé là, etc. Je dis qu'on aurait pu les placer, cet ordre-là est aléatoire, enfin, est conventionnel.
Je suppose que les touches sont comme ça.
Oui, il est conventionnel cet ordre-là, on peut le mettre dans n'importe quel autre. Déplacer les touches, oui.
Pousser ce machin-là.
Oui, oui, en déplaçant la touche. Oui, bah c'est un peu... Y a-t-il eu des trucs comme ça? Il me semble que oui. Il me semble que oui, il y a eu des trucs avec un curseur. Oui, il y a eu, monsieur Anceau, il y a eu, mais il faudrait que je retrouve, des machines dans lesquelles on a remplacé les touches par des curseurs, et c'est toujours des roues.